Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus le Christ selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 27e dimanche. Les apôtres disent au Seigneur :
Augmentons-nous la confiance.
Le Seigneur dit :
Si vous aviez de la confiance, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore : Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, s'il a un esclave qui laboure ou qui garde ses bêtes, lui dira à son retour des champs : Va vite te mettre à table. Non, mais il lui dira : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue et sers-moi. Après quoi, toi, tu mangeras et tu boiras. Est-ce qu'il a gratitude pour l'esclave qui a fait ce qui était prescrit ? De même pour vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous était prescrit, dites : Nous sommes des serviteurs sans salaire, nous avons fait ce que nous devions faire. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Deux petites paraboles qui semblent toutes simples. La première, sur la foi qui déracine les sycomores et les plantes dans la mer, pourrait encourager ceux qui rêvent de miracles tellement mirobolants et qu'ils pourraient contraindre les récalcitrants à croire au Dieu de l'univers. Mais est-ce bien dans la manière de Jésus? La deuxième dit que nous sommes des serviteurs inutiles. C'est une traduction habituelle, mais Dieu veut-il traiter ses enfants de gens inutiles?
Eh bien, voilà bien des questions. On est aussi tenté de séparer cet enseignement en deux leçons qui n'auraient aucun lien entre elles. Oh, certes, les deux leçons ont pu être racontées par Jésus dans des circonstances différentes, mais pourquoi Luc les a-t-il rapprochées? Eh bien, voilà. L'objet de notre réflexion de ce matin. Nos deux petites paraboles se trouvent dans la grande section du récit de Luc qui raconte la montée vers Jérusalem. Dans cette section, Luc a placé de nombreux enseignements qui disent la règle de vie exigeante des disciples de Jésus. Le début de notre chapitre 17 admet que vivre selon les préceptes de Dieu est difficile, et qu'on peut chuter.
Il est inévitable qu'il y ait des causes de chute, mais malheureux celui par qui la chute arrive.
Malheureux celui qui fait chuter son frère, qui le scandalise au sens propre du mot, c'est-à-dire ce mot grec scandalon, qui traduit l'image du piège posé sur le chemin et qui fait tomber. Et le commentaire nous dit de quel piège il s'agit. C'est celui d'une offense faite par un autre frère, une autre sœur, un autre croyant, un autre disciple de Jésus, une offense tellement importante qu'il nous est difficile de pardonner.
Si ton frère vient à pécher, réprimande-le et s'il se repent, pardonne-lui. S'il pèche contre toi 7 fois par jour et s'il revient vers toi 7 fois en disant « Je me repens », tu lui pardonneras.
Le texte parallèle de Matthieu parle d'ailleurs de 70 fois 7 fois. Eh bien, quel que soit le chiffre, cela veut dire clairement tu pardonneras toujours. Cependant, pardonner 70 fois 7 fois, pardonner toujours, est, on pourrait dire, un défi inhumain. Surtout que Jésus ne parle sans doute pas ici de petits pardons de pacotille, des offenses de pinotte, comme on pourrait dire, à savoir le jeune qui a désobéi à sa mère, ou bien le conjoint qui a manifesté un peu trop son impatience, ou le travailleur qui laisse éclater sa colère parce qu'il est fatigué. Non, Jésus a probablement en vue les vraies et douloureuses offenses, les trahisons de l'amitié, les infidélités de l'amour, les mensonges qui sont des calomnies, et qui détruisent le renom de quelqu'un auprès des autres. Il parle de ceux qui nous volent notre bien, notre conjoint, de ceux qui violent notre être. Devant de telles offenses, la réaction première instinctive est souvent celle de la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Alors pardonner, ce sera renoncer à réagir par la violence, à cette violence qui nous est faite. Pardonner, ce sera ne pas renoncer à l'espoir de renouer les liens qui ont été rompus, ne pas renoncer à redevenir l'ami, le frère, la sœur, le conjoint de celui ou celle qui a trahi le lien. Et cela 70 fois, 7 fois. Qui de nous n'a pas la tentation de dire que ce 70 fois, 7 fois est une image et qu'il ne faut pas le prendre trop à la lettre? Car cela nous semble impossible, inhumain, au-dessus de nos forces. Est-ce pour avoir la force de pardon inconditionnel que les apôtres demandent à Jésus d'augmenter leur foi?
Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente en nous la confiance. »
On traduit habituellement « Augmente en nous la foi », mais il ne s'agit sans doute pas ici d'augmenter notre foi en l'existence de Dieu. Il s'agit moins de croire que Dieu existe que de croire en lui, c'est-à-dire de faire grandir notre confiance en lui. Mettre sa confiance en Dieu, c'est puiser en lui la possibilité d'agir comme lui, avec lui et par lui. La foi dont il est question ici ne grandit pas à force d'études sur Dieu. Elle est essentiellement une ouverture à l'amour de Dieu pour nous, un accueil de son amour. Ce que les apôtres demandent, c'est que Jésus leur transmette cette confiance en Dieu qui est la sienne. Tu nous demandes de pardonner comme seul Dieu peut le faire et comme nous te voyons le faire. Alors aide-nous à puiser en Dieu cette force de pardonner, de faire ce qui nous est impossible à nous pauvres humains. Et Jésus va imager sa réponse.
Si vous aviez de la confiance, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait.
La graine de moutarde est parmi la plus petite des semences. Et le sycomore est un arbre réputé indéracinable. L'image peut nous surprendre. Mais il ne s'agit pas d'une recette pour faire des prodiges. Jésus n'a jamais transplanté de sycomore dans la mer. Jésus ne faisait des miracles que pour sauver des êtres humains, pour les remettre debout, pour les remettre en vie, pour en faire des fils et des filles du Père. Alors peut-on trouver un sens symbolique à cette image? On sait que la mer, dans la Bible, est le symbole des lieux du mal, c'est-à-dire l'endroit des forces de mort. Alors l'image veut peut-être suggérer que Dieu est capable de faire à nouveau surgir la vie là où se trouve la mort. Et ce serait une très belle image pour dire la force du pardon divin, un pardon qui peut faire rejaillir l'amitié, rejaillir l'amour sur ce terrain de mort que sont la trahison, la violence, la haine. Si tu fais confiance à Dieu, alors Dieu te permettra de réaliser ce qui te semblait impossible. Il te rendra porteur de vie pour celui qui se détruit par l'alcool depuis des décennies. Il te fera porteur d'espérance dans une église souvent désespérée de voir les jeunes la quitter et l'ignorer. Il te fera porteur de paix dans un milieu de travail où il n'y a que compétition, conflit, suspicion. Porteur de paix peut-être dans ce conflit dramatique entre Israéliens et Palestiniens, entre Irlandais, protestants et catholiques. Combattre ce mal ne peut relever de notre seule volonté. Nous sommes en effet tous trop en manque d'amour, en déficit d'amour, pour que nous soyons seuls tellement féconds d'amour que nous puissions anéantir le mal. Il faut unir notre volonté à celle de Dieu. Non pas qu'il nous faille attendre que Dieu agisse miraculeusement à notre place. Jésus a toujours combattu cette vision d'un Dieu qui nous sauverait sans nous. Il n'a pas voulu être le Messie qui déchargerait chacun et chacune de ses responsabilités. Mais toute action, si elle veut être porteuse de vie, doit être faite par amour. Et l'amour n'est présent que dans la communion de deux êtres, jamais dans un être solitaire. Agir par amour et combattre le mal ne peut se faire que si l'on est dans une communion d'amour avec celui qui est la source de l'amour, Dieu le Père.
C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, car nous sommes de sa race.
Et la première lettre de Jean traduira cela en disant
« Quiconque aime est né de Dieu, car l'amour vient de Dieu. »
Demander qu'augmente en nous la foi, c'est donc demander la force de nous ouvrir à l'amour de Dieu. Alors ce qui est impossible à l'être humain solitaire sera possible à l'être humain animé et inspiré par Dieu.
Nous sommes des serviteurs sans salaire. Nous avons fait ce que nous devions faire.
Cette puissance de la communion avec Dieu était sans doute une expérience forte pour les premiers chrétiens. Des gens étaient en effet profondément transformés par la rencontre de Jésus et de son évangile. Des riches, tels Zachée, tels Barnabé, se mettaient à partager leurs biens. D'autres, tels Philémon, se mettaient à traiter en frères leurs esclaves. Des chrétiens qui étaient juifs accueillaient des païens dans la communauté sans chercher à leur imposer la circoncision comme condition à leur entrée. La grâce de Dieu était à l'œuvre et la foi chrétienne progressait à travers tout l'Empire romain. Pour les apôtres, la tentation pouvait se faire jour de s'attribuer le mérite des succès de leur apostolat. Alors c'est peut-être à cette tentation qu'a pu être appliquée par les premiers chrétiens la petite parabole du serviteur. Dans cette parabole, les spécialistes sont divisés sur la façon de traduire le qualificatif donné aux serviteurs. Nous sommes des serviteurs inutiles, ou des serviteurs quelconques, ou de pauvres serviteurs. Le mot grec qui est ici, akreios, est difficile à traduire parce qu'il peut avoir plusieurs sens. Son premier sens est inutile. Il décrit quelque chose ou quelqu'un d'inutile, d'inefficace. Mais cette traduction est sans doute peu compatible avec la description du serviteur qui est faite. En effet, ce serviteur a labouré ou gardé le troupeau tout le jour, et à son retour, il prépare le souper et sert son maître. Le serviteur a bien rempli son devoir, il a fait ce qu'il devait faire. D'autres traductions disent « Nous sommes des travailleurs quelconques ». La traduction œcuménique de la Bible, la Tobe, dit qu'une traduction littérale serait « des serviteurs bons à rien ». Le contexte, où le serviteur est tout de même utile, montre, dit la Tobe, que cette expression est forcée, mais elle s'applique parfaitement aux disciples. Nul n'est indispensable au service du Seigneur. Ces traductions comprennent donc que les serviteurs de Dieu ne doivent pas se croire indispensables. Pourtant, et pour ne reprendre que le registre du pardon, Jésus n'a-t-il pas dit « Recevez l'Esprit-Saint, ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » N'a-t-il pas fait ainsi de ses disciples les relais indispensables du pardon de Dieu? Mais on peut aussi trouver le mot « akreios » au sens de quelqu'un qui est sans profit, sans solde. Et ce sens est peut-être le plus proche de ce que Jésus veut dire, puisqu'on parle ici de serviteur, même la traduction littérale serait esclave, et non pas d'ouvrier, comme il est dit dans la parabole, par exemple, de l'enfant prodigue. Le mot grec « doulos », esclave, pourrait peut-être traduire ce serviteur sans salaire qui existe à l'époque de Jésus. En effet, celui-ci est un travailleur qui, pour payer sa dette, qui est sans doute énorme, a dû vendre sa force de travail. Alors, chez celui à qui il s'est vendu, il ne reçoit que le gîte et le couvert, mais aucun salaire. Jésus prendrait cette comparaison pour dire que les apôtres ne font que leur travail puisqu'ils appartiennent à Dieu qui est leur maître. Ils sont comme les esclaves qui n'attendent pas de salaire. Un texte d'Antigone de Sochaux, un rabbi vivant 300 ans avant Jésus, dit quelque chose d'ailleurs de très proche de notre parabole.
Ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans cette intention.
D'autres traductions d'ailleurs de ce texte du rabbi disent même « Soyez comme des serviteurs qui servent leur maître à condition de ne pas recevoir de récompense » ou bien encore « sans attendre aucune rémunération ». Le serviteur a été utile, il a bien fait son travail, mais il ne doit pas en attendre du profit. Quand on a bien fait son travail, quand on a été très utile au service du Seigneur, on n'a pas à attendre une récompense. Et si le maître veut nous donner une récompense, nous pourrons alors la recevoir avec la joie étonnée de celui qui reçoit un cadeau. Eh bien, on retrouve ici le message constant de Jésus. Tout ce que nous faisons doit être fait avec une totale gratuité. Et cela, contrairement à la façon de voir et d'agir de nombreux pharisiens de son temps, pour qui la religion se situait au plan des mérites et du droit à la récompense. Bien des auditeurs de Jésus étaient ce qu'on peut appeler des croyants teneurs de livres, c'est-à-dire faisant sans cesse leur compte avec Dieu. J'ai prié tant de temps, j'ai fait tant de bonnes actions, donc Dieu va me récompenser. N'est-ce pas aussi d'ailleurs le sens que peut prendre l'expression « il faut faire son salut » Et lorsqu'il survient une épreuve, n'est-on pas porté à maugréer contre Dieu en disant « je ne mérite pas cela » Or, la vraie relation à Dieu ne sera jamais semblable à une police d'assurance sur la vie, qu'elle soit la vie présente ou la vie éternelle. Non que Dieu n'ait pas de reconnaissance, non que Dieu ne récompense pas. Mais lorsqu'il le fait, ce n'est jamais en retour de quelque bonne action. La récompense qui vient de Dieu est, elle aussi, purement gratuite, en ce sens qu'elle est l'expression de sa bonté et non quelque chose que Dieu nous doit en stricte justice. La récompense donnée par Dieu ne viendra jamais comme un dû, mais toujours comme un cadeau inattendu, inespérable. Tout ce que Dieu fait pour nous est de l'ordre de la pure bonté, d'une générosité sans calcul. Il ne peut jamais y avoir de droit à être aimé, car un tel droit anéantit l'amour, l'amour qui ne peut être que gratuité. L'amour dont Dieu nous aime s'appelle précisément la grâce. Et ce mot indique la gratitude, la gratuité. Dieu nous aime parce qu'il est amour et non pas parce que nous sommes aimables. Et l'amour de l'être humain pour Dieu est qualifié aussi d'action de grâce. Paul reprendra ce même enseignement, lui qui sans cesse dit à ceux qui l'évangélisent qu'il agit en vertu de la grâce que Dieu lui a confiée. Pour Paul, être apôtre n'est pas un titre de gloire, mais une tâche qui s'impose comme à un serviteur.
Vous avez appris la grâce que Dieu m'a accordée pour réaliser son plan. Annoncer l'Évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi, car c'est une nécessité qui m'incombe et s'impose à moi. Malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile.
Ce trésor de l'apostolat, Paul dira que nous le portons comme en des vases d'argile, afin que cette incomparable puissance soit de Dieu et non pas de nous. Dans son beau livre « Comme s'il voyait l'invisible », Jacques Leuve illustre bien cette idée.
Le missionnaire n'a en définitive qu'une force, sa foi unie à celle de l'Église. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Dieu seul sauve, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu. Et cette certitude met tout en place. Il n'y a qu'un seul sauveur, le Christ Jésus. Et bien sûr, le pape, les évêques, les conciles et les mouvements ont quelque chose de réel à faire. Nous ne sommes pas des marionnettes. Mais nous devons agir avant tout et uniquement par lui, avec lui et en lui, comme nous le répétons à la messe. Or, à chaque minute, nous agissons comme si les sauveurs, c'était nous. Alors, on se décourage, on se gonfle d'orgueil, mais finalement, rien n'aboutit. Nous devons faire éclater ce qui est premier et unique dans notre existence, que nous sommes des récepteurs de Dieu, fixés sur la longueur d'onde de Dieu, et émetteurs sur la bande théologale et non terrestre, tout en restant présents à ce monde. Nous ne sommes pas des voix dans le désert, mais dans les cités les plus tumultueuses du monde, nous sommes les prophètes de Dieu et pas autre chose, c'est-à-dire que nous parlons au nom de Dieu.
Ce qui est vrai de l'apôtre, de celui qui est envoyé par le Christ, est vrai aussi de tout disciple. Pour Paul, l'adhésion au Christ Jésus est une grâce surabondante de Dieu.
Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu?
Jésus a sans cesse présenté la relation avec Dieu comme un don, comme une relation qui ne peut être monnayée, elle est gratuite, et ne sera jamais conditionné par nos propres mérites. Rappelons-nous les paroles si claires du sermon sur la montagne.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle gratitude y a-t-il pour vous? Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quelle gratitude pour vous? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs pour recevoir en retour l'équivalent. Seulement, aimez vos ennemis, faites du bien sans rien espérer en retour. Votre récompense sera abondante. Vous serez les fils du Très-Haut, lui qui est bon envers les ingrats et les malfaisants.
Pourtant, il ne faudrait pas durcir l'image du serviteur de l'esclave, car Dieu ne nous considère pas comme ses esclaves, mais comme ses fils et ses filles. Si Jésus emploie cette image du serviteur sans salaire, c'est uniquement pour dire la gratuité de notre amitié avec Dieu, et non pas pour dire que nous sommes des esclaves sur lesquels Dieu régnerait en despote. S'il y a une obéissance qui est due à Dieu, elle se traduit dans une libre écoute de sa parole, une écoute pour éclairer notre conscience et chercher la vérité de nos vies. Cette obéissance ne peut être une soumission servile et craintive. L'amour bannit la crainte, comme le rappelle la première lettre de Jean. La parabole des serviteurs sans salaire n'est donc pas faite pour décrire Dieu comme un maître tout-puissant, mais comme le Père tout-aimant. Elle veut nous rappeler que nos gestes envers Dieu doivent être des gestes qui sont commandés par l'amour gratuit et non pas par l'intérêt ou par une obéissance servile. Ils doivent être, ces gestes d'amour, un besoin du cœur, un besoin de l'amitié. Bien plus, souvenons-nous de ce que Jésus dira de ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Et si Jésus nous rappelle si souvent ce précepte de la gratuité, c'est que celle-ci, cette gratuité, est inhérente à la joie. Si tu veux être heureux, si tu veux connaître la joie véritable, alors il te faut agir en pure générosité, aussi bien envers Dieu qu'envers tes proches. La gratuité est au cœur de la joie, la gratuité conduit à la joie, comme l'illustre bien cette petite histoire vécue.
Une femme roule en voiture sur une autoroute. Un pneu crève. Elle n'a jamais démonté une roue. Un jeune motard s'arrête et change sa roue. La femme veut lui offrir quelque chose pour le remercier, mais lui, avec un sourire, lui dit « Si tu paies, il n'y a plus de plaisir. »
Nous nous demandions au début si les deux paraboles avaient quelque lien entre elles. Au terme de cette réflexion, nous pouvons peut-être dire que la graine de moutarde et les serviteurs inutiles peuvent peut-être s'éclairer mutuellement. Si tu mets en Dieu ta confiance, même si cette confiance ne te semble pas plus grosse qu'une graine de moutarde, tu feras pourtant avec Dieu des choses divines. Tout est possible à celui qui met sa confiance en Dieu. Mais ces choses divines se font dans la communion de l'amour, et cette communion sera toujours un don totalement gratuit du Père. N'attends donc pas de récompense, cela détruirait ta joie. Il faudra corriger la parabole du serviteur sans salaire par une autre parabole.
Heureux ces serviteurs esclaves que le maître trouve en train de veiller. Il prendra la tenue de service, il les fera mettre à table et passera pour les servir.
Quelle audace dans la bouche de Jésus! Dieu lui-même va nous servir. Il va le faire par folle et divine bonté. Comme le maître de la parabole, Jésus lavera les pieds de ses disciples, faisant pour eux le geste d'affection filiale qu'un disciple doit accomplir à l'égard de son maître. Oui, nous sommes là devant le mystère de l'amour, au-delà de toute justice, dans la pure gratuité. Un mystère qui ne se pénètre vraiment que si on le vit concrètement. Pour saisir le sens du lavement des pieds, il faut sans doute avoir vécu la grande tendresse de l'amour, de l'amitié, de la générosité gratuite, et voilà la mission de toute vraie communauté chrétienne.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.